Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean-Claude Ponsou du ministère La Foi Victorieuse. Depuis quelque temps, nous sommes en train de faire une étude sur les quatre chapitres du livre de Ruth. Alors dernièrement, nous étions sur le chapitre 3. Nous n'avions pas encore fini le chapitre 3, mais aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre 3 et entamer aussi le chapitre 4 et par la grâce de Dieu, terminer le chapitre 4 aujourd'hui. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être au rendez-vous. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments où nous allons parler de toi, parler de ta parole. Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous ouvrir ta parole. Viens nous éclairer sur les profondeurs de ta parole, afin qu'au travers de cette étude, Seigneur, nous puissions recevoir encore plus grandement de toi, que nous puissions voir notre foi augmenter, que nous puissions mieux apprendre à connaître le Dieu d'amour, le Dieu de grâce que tu es. Qu'au travers de cette étude, Seigneur, que quelqu'un reçoive sa délivrance, que quelqu'un puisse découvrir quelle est la beauté, la grandeur de ton amour pour nous. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous conduises dans cette étude. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, hier, nous avions parlé du chapitre numéro 3 de Ruth, dont le sous-thème était la foi obéie et la foi est soumise. Nous avons parlé de Naomi, qui était le mentor de Ruth. Nous avons vu que le mentor, c'est quelqu'un qui est expérimenté, c'est un guide, c'est quelqu'un qui, au travers des expériences de la vie et aussi de la sagesse de Dieu, est capable de vous donner des conseils qui vont vous amener au succès. Et je vous disais que j'aimais particulièrement le premier verset du chapitre 3, dans lequel Naomi disait à Ruth, « Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Et je dis toujours, quand vous voyez la vie de Naomi n'est pas une vie remplie de succès. C'est une vie amère, remplie de défaites, de déceptions. Naomi est passée par des situations très dures, très difficiles. Mais vous savez, dans la vie, vous pouvez ne pas avoir réussi, ou vous pouvez même avoir tout raté, si vous me permettez cela. Mais c'est pas parce que vous avez tout raté que vous n'êtes pas une référence ou une inspiration de courage pour quelqu'un. Mais justement parce que vous êtes passé par des expériences dures et difficiles de la vie, parce que vous avez goûté à l'échec et à la défaite, cela vous donne le droit de pouvoir donner des conseils aux gens. Parce qu'il y a aussi une certaine sagesse qui vient de l'échec. Parce que lorsqu'on échoue, on est en situation de connaître et de comprendre comment mieux réussir. Donc Naomi n'avait pas une vie remplie de succès, mais malgré cela, elle pouvait communiquer une certaine sagesse à Ruth. Peut-être que tu as raté certaines choses dans ta vie, mais tu ne dois pas être découragé pour cela, parce que comme je l'ai déjà dit, tu restes une référence pour quelqu'un qui, en cachette, t'admire. Admire ton courage, admire ta foi. Et avec tout ce que tu as eu comme acquis, tu es capable maintenant d'être aussi le mentor de quelqu'un, parce que tu es déjà passé par là, parce que tu as déjà eu telle et telle expérience. Donc, tu peux donner des conseils à quelqu'un. Donc, nous avons vu que Ruth a suivi les conseils de Naomi. Elle a fait tout ce que Naomi lui avait dit de faire. Donc, elle était partie s'allonger au pied de Boaz. Et nous savons que lorsque Boaz a remarqué que quelqu'un était à ses pieds, la Bible dit qu'il avait eu peur. Mais quand il s'est rendu compte que c'était Ruth, il a dit ceci à Ruth. Alors nous sommes dans Ruth, chapitre 3, verset 11. Boaz dit à Ruth, « Maintenant ma fille, ne crains point, Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Alors le verset 12 dit, Boaz dit à Ruth, « Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. » Vous voyez, nous avons vu que celui qui exerce le droit de rachat, c'est un proche parent. C'est le parent le plus proche. C'est celui-là qui exerce le droit de rachat. Maintenant, Boaz dit à Ruth, « Je vais bien te racheter. Je veux bien exercer le droit de rachat sur toi. » Mais le problème, c'est qu'il se trouve quelqu'un qui est plus proche de toi que moi. Donc, je ne peux pas passer avant cette personne. Si cette personne refuse d'exercer le droit de rachat sur toi, alors je pourrais le faire. Mais autrement, je ne pourrais pas, comment dirais-je, je ne pourrais pas te racheter. Donc, la Bible dit, Boaz lui dit, « Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. » Alors Boaz lui dit, « Si cette personne refuse de te racheter, moi je le ferai. » Verset 14. « Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. » Boaz dit, « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint. Et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Vous vous souvenez, nous avons vu dans un passage que je pense que c'est dans Ruth chapitre 2 à son verset 17. Nous avions vu que lorsque Ruth glanait dans le champ de Boaz, à la fin de la journée, la Bible dit dans Ruth 2, verset 17 que il y eut environ un épha d'orge. Ruth avait au total glané un épha d'orge ou une mesure d'orge. Et nous disions que cela équivalait à une provision de pain pour 10 jours. Donc, quand elle travaillait, elle pouvait avoir une mesure d'orge. Mais ici, lorsqu'elle est venue au pied de Boaz, au moment où elle allait partir, Boaz lui a donné 6 mesures d'orge, c'est-à-dire une provision de pain pour 60 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous venons à Dieu, parce que nous voulons recevoir de Dieu quelque chose de précis, Dieu nous le donne, puisqu'il a dit, « Demandez, je vous donnerai. » Mais lorsque nous cherchons Jésus-Christ, lorsque nous cherchons Dieu pour lui-même, pour ce qu'il est, « Seigneur, je t'adore parce que tu es mon Seigneur. Je t'adore pour qui tu es. » Alors, il nous donne plus que nous en avons besoin. Quand elle travaillait, elle gagnait 1 mesure d'orge. Mais quand elle est venue au pied de Boaz, quand elle est venue au pied de Jésus-Christ, elle est ressortie avec 6 mesures d'orge. Ceci nous montre la faveur et la grâce que Dieu est prêt à manifester pour nous. Et j'ai toujours l'habitude de dire que Dieu ne s'arrête jamais à 6. Dieu s'arrête toujours à 7 parce que 7 est le chiffre parfait de Dieu. Alors, quand elle est venue au pied de Boaz, Boaz lui a donné 6 mesures d'orge parce que Boaz lui-même sera la 7e mesure d'orge. C'est-à-dire, Boaz lui-même sera la récompense que Ruth recevra. Donc, nous voyons que Ruth donc est revenue, verset 16, auprès de sa belle-mère. Et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ses 6 mesures d'orge, en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Lorsqu'on est au pied de Jésus, lorsqu'on passe du temps dans la présence de Jésus, on ne retourne pas à vide. Jésus nous donne toujours quelque chose. Et ici, au verset 18, la Bible dit, « Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Vous voyez, Naomi, le mentor, a donné un conseil à Ruth. Ruth a suivi le conseil de Naomi. Et quand Ruth est rentrée à la maison, elle a fait le compte rendu à Naomi. Donc Ruth a dû expliquer à Naomi, « Tu sais, il m'a expliqué qu'il veut bien me racheter, mais seulement il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est plus proche de nous que lui, et que si cette personne accepte de nous racheter, donc lui ne pourra pas. Mais si cette personne refuse de nous racheter, alors seulement à ce moment-là, il pourra le faire. » Et j'aime bien la réponse que Naomi a donnée à Ruth. Vous savez, le mentor, quand vous parlez avec le mentor, quand vous êtes inquiet, le mentor vous rassure. Quand il y a des gens qui sont dans des situations où vous êtes dans une circonstance, vous êtes tellement entouré de problèmes, vous êtes paniqué, vous n'avez pas la paix, vous n'arrivez pas à dormir. Mais lorsque vous exposez votre problème au mentor, le mentor vous parle. Et quand le mentor vous parle, le mentor vous exhorte dans la parole de Dieu. Le mentor vous rassure. Et quand il a fini de vous parler, vous avez la paix en vous. Alors Naomi ne s'est pas inquiétée. Parce que d'autres auraient pu s'inquiéter en disant, « Ah, si jamais cette personne qui est plus proche voulait te racheter, ah, vraiment, on va rater cette belle occasion qui se présente pour toi d'épouser Boaz. » Non, non. Un menteur ne s'inquiète pas. Qu'est-ce que Naomi a dit à Ruth? Naomi a dit à Ruth, verset 18, « Sois tranquille. » J'aime ça. Dieu est en train de dire à quelqu'un qui nous suit actuellement, « Sois tranquille. » Vous savez, dans la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a l'habitude de répéter une parole. Cette parole, c'est « Ne crains pas. » Ne crains pas, ne crains pas, ou encore sois tranquille. Et dans la Bible, vous trouverez l'expression « ne crains pas » 366 fois. Ne crains pas. Dieu dit « ne crains pas ». Et vous savez que les années normales sont composées de 365 jours. Et les années bissextiles sont composées de 366 jours. 366 fois dans sa parole, Dieu dit « ne crains pas ». C'est-à-dire pour chaque jour de ta vie, Dieu te dit « sois tranquille, ne crains pas ». Et quand Dieu dit « ne crains pas », ça veut dire « tout est soumis à mon autorité ». J'ai le contrôle de toutes choses. Dans cette situation où tu n'arrives pas à te retrouver, Dieu te dit aujourd'hui, sois tranquille, parce que j'ai le contrôle de toutes choses. Je t'emmènerai à la victoire, je t'emmènerai jusqu'au bout, je t'emmènerai jusqu'à la bénédiction. Donc, ainsi se termine le chapitre 3, et nous allons maintenant entamer le chapitre 4 du livre de Ruth. Alors, le sous-thème du chapitre 4, c'est « La foi est toujours récompensée ». Alors, dans le chapitre 1, souvenez-vous, le sous-thème était « La foi part sans savoir où elle va ». Dans le chapitre 2, le sous-thème était « La foi fait toujours quelque chose ». Dans le chapitre 3, le sous-thème était « La foi obéit et est soumise ». Et dans le chapitre 4, nous allons voir que la foi est toujours récompensé. Donc, le verset 1 commence. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. J'aime bien le nom que la Bible donne à cette personne. Cette personne qui était plus proche et qui avait avant Boaz le droit de rachat sur Ruth et Naomi, cette personne, la Bible l'appelle Monsieur un tel. Alors avant, quand je lisais l'histoire de Ruth, je me suis toujours posé la question de savoir qui est ce monsieur un tel. Vous savez, la Bible est extraordinaire parce que la Bible est remplie de mystères et c'est une passion. J'aime beaucoup, une de mes passions, c'est d'essayer par l'aide du Saint-Esprit de creuser les mystères jusqu'à finir par l'aide du Saint-Esprit à comprendre ce qui est caché derrière ce mystère. Nous allons voir qui est ce monsieur un tel. Monsieur un tel avait plus que monsieur Boaz le droit de rachat. Donc maintenant, Boaz attendait monsieur un tel. Et Boaz va demander à monsieur un tel s'il est prêt à exercer le droit de rachat sur Ruth. Donc, la Bible dit, Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes. Alors, la référence des 10 hommes est très importante pour qu'on puisse découvrir qui est vraiment ce monsieur un tel. Alors, Boaz prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquière-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat, répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Monsieur un tel voulait bien racheter. Et au verset 5, Ruth 4, verset 5, Boaz dit à monsieur un tel, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et la Bible dit, monsieur un tel, verset 6, c'est-à-dire celui qui avait droit de rachat, répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte. Donc monsieur un tel était prêt à racheter s'il fallait restaurer à Naomi et à Ruth les biens matériels. Mais monsieur Boaz lui a précisé, il ne s'agit pas seulement de leur restaurer leurs biens matériels, mais il faudra aussi dans cette restauration, dans ce rachat, que tu épouses Ruth afin de donner une postérité à son mari qui est décédé. Et à ce moment-là, quand monsieur un tel a entendu cela, il a dit non, je ne veux plus racheter. Si toi tu veux, tu rachètes, mais moi, je ne veux plus racheter de peur de détruire mon héritage. Et donc, la Bible dit, verset 6, et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Maintenant, monsieur un tel donne à monsieur Boaz son droit de rachat pour que monsieur Boaz puisse l'exercer. Et le verset 7 dit: autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Verset 8, celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, monsieur un tel dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte. Et il ôta son soulier. Donc, monsieur un tel, parce qu'il ne voulait pas racheter Ruth, selon la tradition, a enlevé son soulier et a donné son soulier à Boaz, ce qui signifiait qu'il transférait ou transmettait à Boaz son droit de rachat. Maintenant, lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 25, du verset 5 à 19, nous allons voir quelque chose de très intéressant qui explique pourquoi M. Untel a enlevé son soulier. La Bible dit dans Deutéronome 25, verset 5 à 10, je lis, « Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendre pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, alors c'est ce passage qui nous intéresse. C'est ce que M. Untel a fait. Il ne voulait pas prendre sa belle-sœur qui est Ruth. Alors la Bible dit, si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. » Vous voyez. Donc, lorsque quelqu'un refuse de racheter, lorsque celui qui a droit de rachat ne veut pas épouser la belle-sœur, la Bible dit, on lui enlèvera son soulier. Et nous voyons dans le passage que nous avons vu que la belle-sœur devra cracher sur son visage, mais je ne pense pas que c'est ce qui s'est passé avec M. Untel, mais le fait, le symbole du soulier, c'est une manière de dire, je ne veux pas racheter, mais je transfère ce droit de rachat à quelqu'un d'autre. Je précise ici que c'est ce qui se trouvait dans la tradition juive à l'époque, mais cette loi n'est plus respectée aujourd'hui. C'est une loi qui est dépassée, parce que celui qui a exercé le vrai droit de rachat sur nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que personne en suivant cette étude ne dise que c'est ce qui doit se passer absolument dans sa famille. Non, ça c'est, nous parlons des choses qui sont déjà passées, qu'on ne respecte pas, parce que Jésus-Christ, notre Boaz, est venu exercer le droit de rachat sur nous. Donc cette loi dont nous sommes en train de parler n'est plus actuelle. Donc, nous voyons par là que M. Untel a dit qu'il ne pouvait pas racheter. Alors maintenant, nous allons essayer de voir pourquoi M. Untel ne pouvait pas racheter Et qui est ce monsieur un tel? La Bible dit que lorsque nous retournons au verset 1, que Boaz, Ruth 4, verset 2, prit alors 10 hommes comme témoins. Vous savez, monsieur un tel n'est autre que la loi. La loi ne peut pas nous racheter. Et nous savons que la loi est représentée par les fameux 10 commandements, d'où les 10 anciens, les 10 témoins. Donc, la loi ne peut pas nous racheter. Et n'oublions pas, dans Deutéronome chapitre 23, que Dieu a dit, à cause de l'inceste que leur aïeul, Lot, a commis avec ses filles, Dieu a dit, l'Ammonite et le Moabite n'auront pas part, n'entreront pas dans l'assemblée d'Israël à perpétuité. Donc c'était déjà une loi. Alors, la loi ne pouvait pas épouser quelque chose que la loi elle-même a interdite. Donc, la loi était prête. Monsieur un tel était prêt à racheter, mais quand il fallait épouser la Moabite, monsieur un tel qui est la loi a dit non, je ne peux pas. Et je vais vous dire quelque chose. La loi ne nous bénit pas. La loi ne nous peut pas nous racheter. Mais la grâce nous bénit et la grâce nous rachète. Et l'histoire de Ruth, c'est l'histoire d'une femme sur la vie de laquelle pesait un certain nombre de lois. Mais quand elle a rencontré Boaz, quand elle a rencontré Jésus, Jésus a changé la loi. Ah, merci Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Dans ta famille, il y a une loi qui a toujours pesé. Cette loi dit qu'on ne se mariera jamais dans la famille. Dans ta famille, il y a une loi qui a toujours pesé. Cette loi dit que la stérilité régnera dans la famille. Dans ta famille, il y a une loi qui a toujours pesé. Cette loi parle de maladies héréditaires. Dans ta famille, il y a toujours une loi qui a pesé. Cette loi parle de pauvreté de génération en génération. Mais alors que nous sommes en train de parler de Boaz, qui est le portrait de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que tu reçois ce message aujourd'hui, j'ai une nouvelle pour toi. Jésus-Christ va changer la loi. Dans le nom de Jésus, que toutes les lois qui ont toujours pesé sur ta vie et qui ont été des lois qui ne te permettent pas de prospérer ni d'être béni à partir d'aujourd'hui, nous annulons ces lois dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous enlevons ces blocages, nous enlevons ces barrages, nous enlevons ces barrières dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous changeons la loi parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et la grâce te dit, tu ne le mérites pas, mais Boaz te le donne quand même. Tu ne le mérites pas, mais Boaz dit, à partir d'aujourd'hui, à partir de ta génération, toutes les bénédictions que tu n'as jamais expérimentées, tu vas commencer à les expérimenter et les gens diront que la loi a changé, a commencé par toi jusqu'à tes enfants, jusqu'aux enfants de tes enfants, jusqu'aux enfants de tes enfants, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ruth chapitre 4, verset 9. Alors, comme monsieur un tel, qui est l'image de la loi, ne pouvait pas racheter parce que la loi ne rachète pas. Si la loi rachetait, on n'aurait pas eu besoin de Jésus. C'est parce que la loi ne peut pas nous racheter. C'est pour ça que Jésus est venu le faire par la grâce. Que la grâce de Dieu s'étende sur ta vie à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Donc, le verset 9 nous dit, « Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérès, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. » Cet enfant restaurera ton âme, car il sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Vous voyez, Boaz a épousé Ruth. Il a pu exercer le droit de rachat sur Ruth. Parce que Boaz est l'image de la grâce. Et la Bible dit, quand ils se sont mariés, ils ont eu un fils. Et les gens ont dit à Naomi, voici, Dieu te restaure au travers de ta belle-fille. Parce que Naomi n'avait pas de petit-fils. Ses deux fils étaient morts sans enfant. Mais voici que, au travers du rachat de Boaz, Ruth, sa belle-fille, lui a donné un petit-fils. Sa vie a été amère, mais Dieu l'a restaurée. Parce que Dieu est un Dieu de restauration. Tout ce qu'elle avait perdu, le bonheur et la joie qu'elle n'a pas eu, maintenant, à travers le rachat de Boaz, Naomi a retrouvé cette terre qu'elle avait perdue. Elle a même un petit-fils qui lui est né. Sa vieillesse était remplie de paix, remplie de joie, remplie de bonheur. Maintenant, qui dit que Dieu est toujours en retard? Non, le Dieu de grâce que je connais n'est jamais en retard. La Bible dit que ce Dieu est toujours fidèle. David a dit dans le psaume 37, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. » Ça arrivera dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dieu ne t'abandonnera pas. Et ta postérité ne mendiera pas du pain. Dieu est fidèle. Si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu est fidèle. Parce que Jésus, c'est Boaz. Et si Boaz rentre dans ta vie, Boaz va te restaurer. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui est dans une situation tellement désespérée. Et cette personne s'imagine que tu ne la connais pas. Mais j'ai cette parole pour toi ce soir. Boaz dit, je te connais. et je t'attends dans mon champ. Je te connais et je t'attends pour te bénir. Je te connais parce que tu m'as reçu. Je t'ai marié, je t'ai épousé. Bientôt, je vais accomplir le surnaturel dans ta vie. Car je suis le Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses enfants et qui ne déçoit pas ceux qui se confient en moi. La Bible dit, Ruth chapitre 4, verset 17, « Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. » L'enfant de Boaz et de Ruth s'appelait Obed, et Obed signifie « serviteur » ou autrement « serviteur de l'Éternel », ce qui est un très beau prénom. Et la Bible dit, elle l'appela Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alors cet enfant Obed sera le père d'un homme qui s'appelle Isaïe, et cet homme sera le père du grand roi David, le roi d'Israël. Et nous savons que de David descendra plus tard notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, Ruth, Boaz et Obed sont les ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un peut réaliser d'où Ruth est partie pour finir dans la généalogie de Jésus-Christ. Elle était partie de la malédiction, mais elle a rencontré Boaz. Elle est rentrée dans la lignée de la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie que tu es rentrée dans la lignée de la bénédiction, dans le nom de Jésus. Et une chose est intéressante, lorsque nous voyons la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1, allons rapidement dans Matthieu chapitre 1, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 1, dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir, je vais prendre la généalogie, disons à partir du verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pérès et Zara, Pérès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Mais il y a une chose qui est très intéressante et que je voulais vous montrer ici. Vous savez, ce Boaz qui a racheté Ruth, Boaz lui-même était le fils de Rahab, 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 la fameuse prostituée de Jéricho. Ah, Seigneur, est-ce que vous imaginez? Boaz est le fils de Rahab, la prostituée de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? La prostituée de Jéricho a reçu les serviteurs de Josué. Et la Bible dit, quand les enfants d'Israël sont arrivés à Jéricho, elle s'est plantée au milieu d'Israël. Donc elle a changé de vie. Elle a accepté, exactement comme Ruth, Rahab a accepté le Dieu d'Israël. Elle a arrêté la prostitution, sa vie a changé et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni parce que le fils qu'elle a eu, c'était Boaz. Et Boaz était un homme prospère, le portrait de Jésus-Christ. De Boaz sortira Obed au travers du mariage avec Ruth. Et d'Obed sortira Isaïe. D'Isaïe viendra le roi David et plus tard de David sortira notre Seigneur Jésus-Christ. Qui dit que Dieu n'est pas un Dieu de grâce? Peu importe ton passé. si tu as la foi et que tu acceptes le Dieu d'Israël, si tu as la foi et que tu acceptes le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, si tu as la foi et que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quel qu'a été ton passé, Dieu est prêt à te restaurer. Dieu est prêt à te racheter. Dieu est prêt. Avec Dieu, ton futur sera toujours plus beau que ton passé. Je voudrais à ce niveau faire la prière de salut avec quelqu'un qui a la foi. Avec quelqu'un qui, comme Ruth, veut expérimenter une rencontre surnaturelle avec Boaz, notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux bien répéter après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur cette terre, que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je viens à toi. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois le maître de ma vie. Sois le Dieu de ma vie. Sois le berger de ma vie. Je renonce à l'idolâtrie de mes pères. Je renonce à toutes les alliances qui ont été signées dans ma famille. Les alliances démoniaques, les alliances diaboliques, les alliances qui ne confessent pas ton nom et qui ont toujours agi sur ma vie jusqu'à maintenant. Je renonce à toutes ces alliances. Je renonce à ces alliances et je me repens pour moi-même. Je me repens pour mes pères qui ont contracté ces alliances. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je fais avec toi une nouvelle alliance. À partir d'aujourd'hui, je fais alliance avec toi. Avec toi, Seigneur, sois le Dieu de ma vie. Entre dans mon cœur, change ma vie. Je décide de marcher avec toi. Je décide de croire en toi. Je décide que désormais, tu es le seul maître dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière par la foi, ta vie ne sera plus la même. Tu viens juste de laisser ta vie entre les mains de Boaz, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Boaz va te sortir de la malédiction pour t'amener dans la bénédiction. J'aimerais, pour conclure ce message, dire à quelqu'un, ce n'est pas un hasard si j'ai choisi comme thème ton futur sera plus beau que ton passé. Parce que imaginez le passé de Ruth. Elle est venue d'une descendance maudite. Elle était veuve. Elle était pauvre. Elle n'avait aucune espérance. Le jour où elle est partie dans le champ pour glaner, elle n'était pas partie pour chercher un mari. Elle n'était pas partie pour chercher quelqu'un qui va exercer le droit de rachat sur elle. Elle ne savait même pas que le champ dans lequel elle va rentrer, là se trouve celui qui a droit de rachat sur elle. Mais parce qu'elle a accepté le Dieu d'Israël, parce qu'elle a confessé le Dieu d'Israël, la main invisible de Dieu l'a conduite dans le champ de Boaz. Que la main invisible de Dieu change ta destinée aujourd'hui. Alors que tu viens de faire cette prière, où tu as confessé, reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je déclare au nom de Jésus un changement dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que les portes fermées vont maintenant s'ouvrir. Je déclare au nom de Jésus-Christ un déménagement spirituel, un déménagement physique, un déménagement financier, un déménagement total. Là où tu étais avant, tu ne seras plus là-bas maintenant. Car Dieu va t'élever. Dieu va te mettre dans une position élevée. Parce que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et la Bible dit qu'en lui, nous aussi, nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Lorsque tu es assis dans la hauteur, ça veut dire que tout est sous tes pieds. À partir d'aujourd'hui, la maladie sera sous tes pieds. À partir d'aujourd'hui, la pauvreté sera sous tes pieds. À partir d'aujourd'hui, les blocages seront sous tes pieds. La malédiction de génération dans ta famille qui a toujours agi sur toi, à partir d'aujourd'hui, sera sous tes pieds. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle. Je voulais préciser une chose. Vous voyez, lorsque nous regardons la Bible, souvent nous disons l'Ancien Testament c'est la loi, le Nouveau Testament c'est la grâce. Mais lorsque nous étudions bien l'Ancien Testament, nous verrons que même dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu n'est pas là pour te juger. Dieu dit « Je t'aime ». Je t'aime tellement que je suis capable de changer la loi, juste pour te favoriser et pour te montrer que je t'aime. Parce que Ruth n'a aucune chance d'entrer ni dans l'Assemblée d'Israël, ni dans quoi que ce soit, mais là voilà qui est une ancêtre de Jésus-Christ. Et pourtant, dans Deutéronome 23, Dieu a dit, jamais les Moabites et les Ammonites n'entreront dans l'Assemblée d'Israël. Et la Bible dit, c'est une loi qui est valable pour l'éternité, mais Dieu a changé la loi. Pourquoi Dieu a changé la loi? Dieu a changé la loi à cause de la foi de Ruth. Est-ce que tu as la foi? Toutes les lois de l'ennemi qui pèsent et qui ont toujours pesé sur toi jusqu'à maintenant, je le sais, Dieu dit je le sais. Mais moi je te pose une question. Est-ce que tu as la foi? Parce que Ruth est partie par la foi dans le pays du Dieu d'Israël. Et arrivée là-bas, elle a été sauvée. Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu aies foi en lui. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas respecter les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, personne ne peut les respecter. La seule personne qui a pu respecter les 10 commandements sur cette terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. À part notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut respecter les 10 commandements. Si tu marches avec Dieu et que ta marche avec Dieu est basée sur le respect des commandements, alors il faut savoir que tu ne seras jamais qualifié. Parce qu'à un moment donné, tu vas toujours briser la loi. Tu vas toujours briser le commandement. À un moment donné, tu vas toujours passer à côté. C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas respecter les commandements. Dans la loi est composée de 613 commandements. Les plus célèbres sont les 10 commandements. Mais c'est impossible de respecter les commandements parce que la Bible dit, lorsque nous lisons le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, à son verset 10, la Bible dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Si tu veux être béni en respectant le commandement, la Bible dit, supposons qu'il y a 1000 commandements, si tu respectes 999,99 commandements et que tu rates 0,1 commandement, le 0,1 commandement que tu as raté annule tous les autres que tu as respectés. Donc, c'est impossible d'être béni par la loi. C'est impossible d'être béni en suivant les commandements. Non, ce n'est pas possible. La Bible dit, Lorsque nous allons dans Galates chapitre 2, verset 16, il y a plusieurs passages dans la Bible où la Bible nous dit clairement que c'est par grâce que nous sommes sauvés. La loi ne peut pas nous sauver parce que la loi dit, si tu obéis au commandement, tu seras béni. Et si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Le problème est que c'est impossible d'obéir à 613 commandements. C'est pas possible. Même les 10 commandements seulement, c'est impossible. Donc, tu es toujours maudit avec la loi. Avec la loi, tu n'es pas béni, tu es toujours maudit. Jésus-Christ est venu, il a respecté tous les commandements. Maintenant, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, en Jésus-Christ, tu seras béni. Parce que quand Dieu va te voir, il va te voir en Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est important de recevoir Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Galates 2:16, alors, je vais donner quelques références. Hein. Ces références nous montrent que la loi ne peut pas nous sauver. Vous lirez Romains chapitre 4, verset 15. Dans Romains 4, verset 15, par exemple, la Bible dit, Romains 4, verset 15, la Bible dit, « Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. » Pourquoi la Bible dit « la loi produit la colère » C'est-à-dire, si tu veux respecter toutes les lois, il y aura un commandement que tu vas rater. Et parce que tu as raté ce commandement, ça produit la colère de Dieu. Et la colère de Dieu amène la malédiction. La loi nous maudit, mais la grâce ne nous maudit pas. La loi nous maudit, mais la grâce nous bénit. Pourquoi Dieu a donné la loi? Dieu a donné la loi pour montrer à quel point il est saint. La loi a été donnée pour montrer la sainteté de Dieu. Et à quel point nous sommes incapables d'y arriver, nous sommes incapables de respecter tous les commandements sans Jésus. Donc la loi a été donnée pour nous montrer à quel point nous sommes imparfaits et à quel point Dieu est parfait. Si nous voulons marcher par les commandements et par les lois, nous allons toujours rater la bénédiction. La loi est contre nous. La loi n'est pas pour nous. C'est pour ça que par la foi, Dieu fait grâce en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il est venu s'offrir, payer le prix du péché pour nous ramener dans une relation. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La foi, ce n'est pas respecter les commandements. La foi, c'est avoir une relation avec Dieu. Parce que si tu as une relation avec Dieu, même si tu rates les commandements, parce que tu as une relation avec Dieu, Dieu te rachète par son amour. Quand Joseph était dans la maison de Potiphar et que la femme de Potiphar voulait le séduire, la Bible dit qu'il a fui. Il n'a pas commis l'adultère. Et pourtant, Joseph, à cette époque, n'avait pas la loi. À l'époque où Joseph vivait, la loi n'avait pas encore été donnée à Moïse. Moïse n'existait pas encore. Joseph ne connaissait pas une loi qui disait « tu ne commettras pas l'adultère ». Et pourtant, Joseph savait, sans la loi, qu'il ne fallait pas commettre l'adultère. Pourquoi ? Parce qu'il avait une relation avec Dieu. Quand tu as une relation avec Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas. Tu n'as pas besoin de loi pour ça. Parce que ta relation avec Dieu t'apprend l'amour de Dieu, comment respecter Dieu et marcher avec Dieu. Et même s'il arrive que tu commets une erreur, parce que tu as cette relation avec Dieu, dans cette relation avec Dieu, Dieu, dans son amour, va couvrir et protéger ton erreur. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grâce. Je veux prier aujourd'hui pour des gens, pour vous dire à quel point Dieu veut changer la loi. Il veut changer la loi parce qu'il est d'abord un Dieu d'amour. S'il a changé la loi pour Ruth, il changera aussi la loi pour toi. Même s'il est arrivé que tu n'as pas pu respecter tous les commandements, Dieu te dit aujourd'hui, si tu te repens, que tu reçois mon Seigneur, mon Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais changer la loi pour toi. Je vais te bénir. Je vais marcher avec toi. je vais te pardonner. Je vais te regarder au travers de mon fils Jésus-Christ, au travers de son sang qui a été versé. Et quand je te regarde au travers de son sang qui a été versé, c'est comme si tu n'as jamais péché. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je prie ce soir pour tous ceux qui se sentent condamnés, pour tous ceux qui croient, ou pour tous ceux sur qui pèse une loi quelconque qui leur interdit d'avoir accès à la bénédiction. Seigneur, toi qui es un Dieu de grâce, change la loi. Comme tu as changé la loi pour Ruth, change la loi, Seigneur, pour tes enfants. Que les chaînes tombent de leurs mains. Que les portes de bénédiction s'ouvrent au-devant d'eux. Que leur attente, Seigneur, que la provision qu'ils attendent de toi, ils puissent le recevoir. Parce que Boaz est la provision. Jésus-Christ est la provision. Merci Seigneur de prendre le passé de quelqu'un et de faire en sorte que son futur soit plus beau que le passé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.